J'ai Philippe Pesant-Bellemare en studio. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane.
Alors Philippe, donc vous êtes allé aux réactions de nos élus politiques.
Oui, effectivement, je me suis entretenu d'abord hier avec le député des Îles à l'Assemblée nationale, Joël Arsenault, et ce matin avec le maire des Îles et président de la communauté maritime, Antonin Valiquette. Dans un premier temps, je vous laisserai entendre l'entrevue que j'ai faite avec M. Arsenault. Justement, bon, j'ai commencé par lui demander comment il réagit face à ce budget-là.
Mais écoutez, on dit souvent, là, est-ce que le budget va changer les choses? Qu'est-ce qu'on va retenir du budget? Est-ce qu'il va passer à l'histoire? Cette fois-ci, ben, je pense qu'on peut dire que le budget va passer à l'histoire parce que c'est un budget déficitaire de façon historique. On parle de 11 milliards de dollars et ça va avoir une influence pour les années à venir. Là. Et c'est 4 fois plus de déficit que ce qu'on prévoyait en novembre dernier. Donc, on peut se poser des questions là sur l'acuité des calculs du gouvernement du Québec, mais surtout sur l'avenir que ça nous réserve, parce qu'on annonce déjà, puis ça, c'est à venir, là, qu'on va faire ce qu'on appelle au gouvernement de l'optimisation. Ça veut dire qu'on va vouloir resserrer les budgets de tous les ministères. Donc, quel genre de période de compression qu'on va traverser au cours des prochaines années? C'est inquiétant, alors qu'on sait que c'est une conséquence directe des baisses d'impôts puis des chèques à 500 $ qu'on a envoyés aux Québécois en période préélectorale, puis le fait que le fédéral fasse pas sa part en matière de santé, notamment, avec tout ce qu'on lui réclame et qu'il ne nous verse pas.
Et est-ce qu'il y a quand même des éléments positifs que vous voyez dans ce budget-là?
Oui, je vais mentionner d'entrée de jeu que s'il n'y a pas grand-chose pour les régions, là, il n'y a pas grand-chose pour, en fait, il n'y a rien pour la crise du logement, stimuler la construction, l'accès à la propriété, tout ça. Il y a une chose sur laquelle, moi, je veux quand même insister, c'est sur le fait que le gouvernement, après avoir insisté pendant 4 ans sur l'idée en transport aérien de réduire le coût des billets puis de stimuler la demande, il a enfin compris qu'il fallait aussi améliorer et bonifier l'offre de services. Et là, il y a un montant de 9 millions par année pour les 3 prochaines années. Ça, c'est une demande moi, que je faisais depuis 4 ans. Il y a des projets qui ont été évoqués un peu partout, proposés même au gouvernement depuis quelques années. Il s'obstinait à ne pas vouloir travailler de ce côté-là. Donc, je pense que si on veut améliorer le transport aérien, il faut non seulement que les billets soient à moindre coût, mais il faut avoir des sièges, il faut avoir des fréquences, il faut avoir des vols et des liaisons à travers l'ensemble des différentes régions du Québec, y compris aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, on va travailler là-dessus. On va être vigilant, là, mais on va vouloir aussi qu'il y ait une valeur ajoutée à ces investissements-là. Ça, c'est un côté positif. Le message a été entendu, puis on va voir comment ça va se déployer. L'autre volet positif, bien, c'est les aînés invalides qui se voyaient justement privés d'une partie de leur rente de retraite rendue à 65 ans. Le gouvernement a décidé de retirer cette pénalité-là. Ça touche 77 000 Québécoises et Québécois parmi les plus vulnérables, les plus démunis. Alors ça, c'est une autre bonne nouvelle.
Et bon, quand on voit justement ce déficit-là annoncé de 11 milliards de dollars, selon vous, là, après avoir consulté le budget, après en avoir discuté aussi avec vos collègues, j'imagine, est-ce que c'est davantage un problème au niveau des dépenses ou un problème au niveau des revenus pour le gouvernement du Québec?
Ben moi, je pense qu'il y a une question de revenus là-dedans, principalement. C'est-à-dire que le gouvernement a décidé de se priver de points d'impôt. Il a réduit les impôts, c'était un engagement électoral, et on lui a fait dire, écoutez, si vous vous privez de revenus à un moment donné, là, ça va coincer. Est-ce qu'on va avoir les moyens de maintenir nos services en éducation, en santé, à investir dans l'environnement? Il n'y a rien du tout là pour l'adaptation au changement climatique, pour aller plus loin, plus vite face à l'urgence climatique. Et puis, le gouvernement nous a certifié qu'on avait les moyens de le faire. Aujourd'hui, ben, on n'a plus vraiment les moyens de nos ambitions. Il va falloir aller chercher 4 milliards de dollars par année là, sur une base récurrente. C'est un déficit qu'on dit structurel. Et la structure dans laquelle on est, là, c'est aussi le Canada. On envoie la moitié de nos impôts à Ottawa. Puis quand il est question de nous donner des services de santé, puis qu'on est en droit de s'attendre à avoir 6 milliards de dollars, ben, on en reçoit seulement un. Il est là, le 4 milliards, là, entre autres en santé, puis on pourrait nommer d'autres thématiques aussi. Je viens de parler de l'environnement. Mais pendant qu'on n'a pas l'argent là, qui est au fédéral, puis qui est dépensé, par exemple, dans les sables bitumineux de l'Alberta, mais nous, au Québec, on a décidé qu'on ne faisait pas d'exploration et d'exploitation pétrolière, puis qu'on on voulait faire le virage, mais on aurait besoin le virage écologique, la transition, mais on a besoin de l'argent qui dort actuellement à Ottawa. Alors moi, je pense que c'est une question de disposer de l'ensemble de nos ressources, et y compris nos ressources financières, pour prendre les meilleures décisions pour l'avenir des services publics au Québec, et puis soutenir évidemment les plus démunis, notamment là, à travers le tissu, le filet social, si on veut, là, qui est offert à la fois par les programmes gouvernementaux, mais aussi par les organismes communautaires qui n'ont pas vu non plus leur budget augmenter, là, puis on le sait, là, ils tirent le terme par la queue, puis ont de la difficulté à retenir leur personnel, puis à faire leur prestation de service, mais malgré toute leur bienveillance, puis tout leur courage, leur détermination, ils n'auront pas les moyens, encore une fois, là, au cours de la prochaine année, de répondre à l'ensemble des demandes des gens qui sont de plus en plus coincés par l'augmentation du coût de la vie, notamment.
En terminant, là, peut-être, là, dans un scénario de politique fiction où vous et vos collègues auriez hérité de la situation budgétaire actuelle du Québec et vous aviez eu à produire ce budget-là, qu'est-ce qui aurait été différent?
Bien, ce qui aurait été différent, on ne peut pas dire aujourd'hui, là, nous, on assumerait la décision de la CAQ et puis on ferait mieux. Il faut revenir à l'entrée, l'accession au pouvoir de la CAQ. Donc, on n'aurait pas pris les décisions de se priver de revenus, d'une part. Puis d'autre part, ben, on irait chercher l'argent qui dort à Ottawa ou qui est dépensé sans nécessairement que ce soit à notre avantage ou selon nos priorités par le gouvernement fédéral. C'est ça la différence du Parti québécois. Et je pense qu'elle est significative. Le gouvernement, souvenez-vous, nous avait promis là, qu'avec un mandat fort, avec un large contingent de députés, il pourrait s'imposer puis aller chercher des pouvoirs et un financement important pour les services publics auprès d'Ottawa. C'est pas ce qui s'est produit. Puis là, aujourd'hui, bien, on se demande pourquoi on n'a pas les moyens de nos ambitions. Bien, c'est une partie de la réponse qu'on a aujourd'hui.
Donc, Joël Arsenault, député des Îles à l'Assemblée nationale, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Bonne journée.